Radio Caravane, le cirque sur les ondes.
Vos yeux sont sur la piste, vos oreilles dans les coulisses.
Salut à toutes et à tous! Vous êtes à l'écoute de Radio Caravane pour une émission très spéciale. Au programme aujourd'hui, rencontre avec Ignacio de la compagnie IFAN pour une escapade avec un artiste nomade. Puis, zoom sur le mécénat et les partenariats privés avec Nathalie. Mais maintenant, on écoute Marie-Laurence, un pied au Lido, un pied à la grainerie pour nous parler de son poste de coordinatrice du studio Pact.
La grainerie a 20 ans.
20 ans de cirque en Occitanie.
La grainerie is 20 years old. 20 years of circus in Occitanie.
La grainerie tiene 20 años. 20 años de circo en Occitania.
Culture.
Art. Passion.
Famille.
Liberté.
La grainerie is the 26 years old. 26 years circus in Occitanie.
A Grainerie tem 20 anos, 20 anos de cirque na Occitanie.
Nous sommes en compagnie de Marie-Laurence, coordinatrice pour le studio Pact. Merci d'avoir accepté notre invitation. En premier, pouvez-vous nous éclaircir sur ce qu'est le studio Pact ?
Le studio Pact est un dispositif mutualisé entre le Lido, qui est donc l'école du cirque de Toulouse, et la grainerie, lieu de fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Ce dispositif mutualisé vise à accompagner des premiers projets de création portés par de jeunes artistes émergents des arts du cirque, dont la plupart sont issus du Lido. Donc c'est vraiment un point de coopération important entre une école de cirque, le Lido, et la grainerie, qui est un lieu de travail pour les équipes circassiennes.
Quand et comment cette opportunité de coordinatrice s'est-elle présentée à vous ?
Le poste, je l'occupe depuis 2008. Quand je suis arrivée à ce poste-là, on était dans une phase expérimentale du dispositif. Voilà, le Lido, la grainerie, par l'opportunité d'un projet européen transfrontalier qui s'appelait à l'époque Cirque Haut, ça a permis de financer mon poste. Voilà, il n'y avait personne avant à ce poste-là. Il y avait un accompagnement qui existait, et de la part de l'équipe de la grainerie d'un côté et de la part du Lido. Au Lido, c'était plus axé sur l'artistique, puisque c'est quand même leur compétence. Ça s'appelait le studio du Lido, d'ailleurs. Donc, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont été accompagnées dans leur première création avec le studio du Lido. Les plus connus d'entre ces équipes, c'est très certainement les Acrostiches. C'était les premiers bénéficiaire de cet accompagnement-là. Donc c'est vraiment, ça découle d'une longue histoire. Donc moi, je suis vraiment arrivée bien après tout ça, au moment où les choses se sont structurées, où effectivement la grainerie et le Lido se sont rapprochés pour mutualiser des compétences et des moyens sur cet accompagnement-là.
Vous partagez votre semaine en deux entre le Lido et la grainerie. Pourquoi cela ?
Eh bien, parce que en fait, effectivement, j'ai été recrutée sur un poste identique. Enfin, c'est un poste mutualisé, donc je fais exactement les mêmes choses quand je suis au Lido et la grainerie. Mais il était important que je puisse être intégré dans les équipes des deux structures. Voilà, que j'ai une totale compréhension de ce qui se passait et au Lido et à la grainerie. Et pour ça, la présence in situ est très importante en termes de partage d'informations, de retour d'informations. Le gros avantage de ça, c'est que quand même, ce sont deux structures qui géographiquement sont très proches.
Combien de compagnies ont profité du dispositif jusqu'ici ?
Dans le studio de Toulouse Pact, tel qu'il est aujourd'hui, et je ne parle pas des équipes d'avant quand on est au Lido, mais depuis 2008, donc nous avons accompagné 26 équipes. Ça représente à peu près 55 artistes.
Comment vous accompagnez les compagnies dans leur professionnalisation ?
Nous, on a une approche vraiment globale des projets. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce rapprochement Lido Grainerie. C'est-à-dire que l'artistique est très important. Évidemment, c'est la matière, c'est ce qui est donné à voir au plateau. Mais porteur de projet, il est aussi chef de projet, du coup. Et donc, il y a plein de tâches inhérentes. Je dirais que c'est la partie émergée de l'iceberg, le spectacle. Il y a des tas de choses qui sont difficilement compréhensibles tant qu'on n'est pas confronté à la gestion de projet, à la conduite de projet, et donc on n'apprend pas à l'école. C'est vraiment une phase d'expérimentation de je suis maître d'œuvre de mon projet, je suis porteur de mon projet et comment je vais le développer. Et donc du coup, c'est effectivement les répétitions, c'est comment est-ce qu'on intègre un réseau professionnel, comment on se fait repérer, comment on se fait identifier. Donc nous, quand je dis nous, parce que moi je suis la coordinatrice, mais c'est vraiment une synergie de plusieurs compétences. Par exemple, à la grainerie, le directeur Serge œuvre beaucoup pour le repérage et la visibilité des équipes qui sont dans le Studio Pacte pour faciliter la mise en réseau. Je crois que ce qui est très important dans une pépinière, effectivement, c'est l'aspect mise en réseau, parce que c'est ça qui permet l'entrée, qui facilite l'entrée dans la vie professionnelle. C'est le réseau, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas quand on démarre dans la vie professionnelle.
J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous ressentez à la fin d'un projet au bout de 2 ans et demi, quand il arrive à terme, en tant que coordinatrice, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez une fois que c'est abouti ?
Très souvent, je vois le spectacle et je me dis, ça n'a pas été simple. Là, ce qu'on voit là, est-ce qu'on se serait douté qu'on arriverait là ? Parce que la création n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des moments de doute, il y a des moments je dirais presque de remise en question complète. Voilà, c'est normal, ça vient fouiller des choses en soi qui sont... vraiment importante, intime. Il y a une grosse, grosse pression sur les premières créations. L'artiste se bat sur plusieurs plans, sur la question de l'identité artistique. Il faut que je montre qui je suis, ce dont je suis capable. Enfin, il y a énormément d'enjeux sur la première création. On est très fébrile à la veille d'une première. Est-ce que ça va marcher là où j'en suis, etc. Je regarde les choses avec comme un espèce de parcours de randonnée un peu compliqué, et puis j'ai fait tout ce chemin là mais c'est beaucoup de gratification en même temps. Enfin, c'est là où je trouve que la gratification personnelle, professionnelle, elle est là aussi. C'est quand les spectacles aboutissent, quand le succès vient aussi. Ça, c'est important. On a tous besoin de succès dans nos vies professionnelles.
Sur cette année, pouvez-vous me dire quelle compagnie accompagnez-vous?
Pour 2018, on a les 3 compagnies qui ont sorti leur spectacle en 2017, donc là qui sont en fin d'accompagnement. Et on va gentiment se dire au revoir. Donc, parce que effectivement, les compagnies sont accompagnées pour un temps maximal de 3 ans. Donc, du coup, c'est normal, c'est un accompagnement tout à fait temporaire, il n'a pas du tout vocation à être pérenne. Ces compagnies-là, c'est la June Compagnie, la compagnie Tout et Happy Face. Et on a une compagnie qui est entre deux, c'est-à-dire qui est en fin de création, qui a sorti les premières, mais il y a encore du retravail derrière. Et notamment, il faut les accompagner pour préparer un enjeu important qui est le Festival Up à Bruxelles. Ils sont programmés dans Bruxelles Up, donc c'est la compagnie La Zouz. Et ensuite, on a les petits nouveaux qui viennent de rentrer, c'est Joséphina Castro et Daniel Ortiz. C'est un cadre coréen et ça, c'est assez inédit pour nous. On n'avait jamais pour l'instant accompagné un projet avec cet agrès-là. Et deux choses nouvelles avec ce projet, c'est que non seulement ils n'ont pas issu du Lido, et en plus, c'est un agrès qu'on n'a pour l'instant pas accompagné. Eux, ils viennent de rentrer, donc ils sont en début d'accompagnement.
Quel type d'évolution vous voyez dans le futur pour le Studio Pacte? Est-ce que vous allez ouvrir encore plus de possibilités, des artistes internationaux? Comment faites-vous votre sélection de pépinières sur Cycle Toulousain?
Alors, effectivement, les équipes sont sélectionnées et sont volontairement restreintes. Tout simplement parce qu'on met en adéquation le nombre d'équipes avec les moyens dont on dispose. On n'a pas des moyens humains, financiers et techniques suffisants pour accompagner plein d'équipes. Après, je pense qu'il pour rester sur une pertinence de proposition, on n'est pas dans le quantitatif. On garde le qualitatif, ça c'est très important. Qu'il faut savoir que la réalité, c'est que pour que ces projets-là soient absorbés par un réseau de diffusion de partenaires, on n'a pas non plus énormément de partenaires, donc on ne peut pas non plus être sur des propositions multiples pour que chaque projet trouve une issue, au moins une aide autre que nous dans le projet. Donc on est vraiment sur une concentration de moyens sur un accompagnement renforcé. Après, sur les évolutions, on peut être sur des propositions qui sont plus ouvertes, mais qui sont ponctuelles, parce qu'il y a des besoins, il y a des gros besoins. Il y a une zone qui est un peu angoissante, une zone flottante qui est entre la sortie de l'école et puis la première création. Et qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas toujours en mode de projet. Quand on sort de l'école, on a peut-être d'autres choses à faire, on a besoin de se nourrir autrement. Ça passe par travailler avec des compagnies en tant qu'interprète, s'emporter soi-même le projet. Ça passe par, continuer dans la formation continue, faire des rencontres, des voyages. Enfin, c'est tout un tas de choses qu'on peut faire. Mais en tout cas, je pense que d'avoir des propositions entre l'école et le mode projet type la recherche, par exemple, accompagner la recherche, ça peut être un axe. Alors, est-ce que c'est dans la pépinière ou pas ? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des besoins, des manques. Alors, ils sont pas que artistiques, ils sont techniques aussi, sur la technique pure de ce spectacle, la lumière, le son, ils sont sur administratif, juridique, c'est la question des droits d'auteur, l'utilisation des images, des musiques, il y a plein de choses, il y a les aspects de communication, enfin il y a plein, je pense, d'endroits où on peut accompagner, aider, même si c'est que ponctuellement, des porteurs de projets ou futurs porteurs de projets.
La grainerie fête ses 20 ans, qu'est-ce que cela vous évoque ?
Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, la grainerie qui a 20 ans, c'est déjà une sacrée histoire, mais c'est jeune 20 ans.
C'est jeune, oui.
Enfin, je pense que la grainerie va encore grandir, elle a encore plein de...
C'est une structure pleine d'avenir.
Voilà. Ah oui, complètement. Enfin, en tout cas, c'est une structure qui a largement prouvé son utilité sur le territoire en termes de lieu de travail pour des artistes professionnels. C'est un lieu de rencontre. Ça permet à des artistes de rencontrer un public. Il y a plein d'endroits où c'est un acteur, on va dire, économique de l'écosystème circassien en région qui est capitale. Enfin voilà, si on l'enlève, ça marche plus. Voilà, je pense que la grainerie en 20 ans s'est bien enracinée, a bien pris racine. Elle a encore des choses, de grandes aventures à vivre.
Je vous remercie d'avoir pris sur votre temps pour répondre à nos questions.
Merci.
Place à Ignacio pour un instant poétique, hors des frontières connues de l'espace et du temps.
Bonjour, c'est Ignacio de la compagnie FAN sur Radio Caravane.
La compagnie FAN, est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
La compagnie FAN, on dit en sous-titre notre travail comme des cirques humains. Du coup, c'est un cirque qui voulait aussi incarner, transmettre des rêves, des valeurs, ramener de l'espoir dans un monde où il y a beaucoup de désespoir, et beaucoup de choses qui nous ramènent un peu de désespoir. Je pense que notre compagnie, les cirques, ils peuvent nous ramener de l'espoir. Et c'est une des idées qui font partie de la compagnie. Du coup, en parallèle, même des fois, on ne fait pas la différence entre les travaux de création, d'aller jouer dans des festivals, dans différents endroits. On mène aussi des projets, comme par exemple, on va faire un projet à la prison de Muret avec les prisonniers. On va faire une création, ils vont sortir de la prison jouer. Sur le thème de l'amitié, je prépare un projet aussi avec une classe. On va faire un court-métrage autour du thème de l'exclusion, l'histoire d'un enfant qui commence à devenir invisible et ses amis ne le voient pas. Du coup, c'est un peu l'âme de la compagnie, de se nourrir de croire à tout qui est humain et dans tous les chemins.
Dans quelle langue principale vous travaillez, en français, en espagnol? On sait qu'on va revenir sur le fait que vous parlez plusieurs langues. Comment ça se passe au niveau de la communication entre vous?
Bon, on parle, je pense, ça qu'on appelle la langue du cirque. Parce qu'on passe, on parle des fois en portugais, hein, et on passe à l'espagnol. Et Yutaka, il aime bien parler l'espagnol. Et par exemple, c'est toujours quand il m'écrit des mails, il m'écrit en espagnol. Je les réponds en japonais. Du coup, ça que des fois on pense que les langues, des fois ça difficulte. Je pense que c'est tout le contraire. Les langues, des fois, ils ramènent de l'humour, de la métaphore, de l'imagination. Même quand, entre guillemets, on se trompe, mais des fois on dit des choses qui sont plus belles même que dans, quelqu'un dirait dans sa langue maternelle. Et même pour moi, par exemple, parler en français dans les spectacles, je pense que c'est quelque chose que j'aime. Parce qu'il y a une certaine distance, il y a des choses que dans ta langue tu auras du mal à dire, mais quand tu les dis dans une autre langue, ça ressemble plus facile.
Quelle est votre vision du cirque? Est-ce que regard vous portez sur le cirque?
Bon, j'ai un peu la vision du cirque comme un espace de création totale. C'est pour ça que j'aime le cirque, ça m'a attiré, parce que le cirque, on peut ramener la marionnette, on peut écrire des textes, on peut aller vers le mouvement, on peut aller vers les arts plastiques. C'est un espace de liberté, c'est un peu l'idée. Et qui aussi a été pour moi porteur d'une forme de poésie, d'utopie, parce que les cirques, même dans sa forme traditionnelle, c'était une métaphore de comment, à travers les rêves et l'effort, on peut arriver à faire des choses qui semblent des fois impossibles. C'est ça. Après, voilà, je me suis formé un peu dans les cirques traditionnels, on va dire. J'étais à Moscou, en Chine. Et du coup, je me sens aussi relié à des valeurs qui étaient déjà présentes dans les cirques traditionnels, on va dire. Voilà, je pense que les cirques que j'aime, c'est un cirque un peu de présent.
Pourquoi avoir voulu devenir comédien?
Bon, j'ai commencé, comme j'ai écrit dans ma biographie, quand j'avais 5 ans, j'ai joué dans une pièce de théâtre à l'école. J'ai fait cet arbre et je ne parlais pas. Déjà, j'ai senti que le plaisir de la simplicité et du silence, aussi des partages. Je pense que quand jouer, c'est surtout c'est un acte de générosité, de partage avec les personnes qui jouent et avec le public. J'ai toujours aimé ça, aimé cette communication sincère des fois, même si c'est de l'imaginaire. Souvent, les théâtres que j'aime, c'est des fois on est plus authentique même dans la vie réelle. Et il y a plus de sincérité, plus de profondeur, plus de force, ça donne du vie à la vie. Et j'ai toujours voulu participer de ça, et c'est pour ça que je suis là.
Pourquoi vous avez pris le choix de la grainerie?
Bon, la grainerie, c'est vrai que c'est un lieu que j'ai retrouvé, et que depuis le départ, quand j'ai arrivé, que j'étais dans l'ancienne grainerie, quand c'était sur la rue des Castres, un vieil hangar, bon, j'ai retrouvé aussi cet esprit des créations, des soutiens entre les gens. J'étais avec, quand j'arrivais là, il avait le Bostrophéon, la compagnie Bostrophéon qui prépare son spectacle. Et on s'est entraînés, j'ai montré, ah, je suis en train de faire ça. Et on partageait des idées. Il avait Joe Martinez, l'ancien directeur, qui nous suivait aussi. Et on mangeait ensemble. Il avait un esprit de création et d'entraide qui m'a touché et qui m'a fait continuer.
Est-ce qu'il y a un lieu qui vous a marqué?
Bon, j'ai eu la chance d'avoir joué dans différents endroits. Déjà, j'ai travaillé dans Saint-Cirque en chapiteau pendant 4 ans. J'ai travaillé avec un chorale de danse en Alprin, qui est un grand chorale, et on joue dans des énormes théâtres. Mais on a joué cette année au Centre Pompidou, au théâtre de Centre Pompidou. Mais des fois, j'ai joué dans des petits endroits. Des fois pour pas beaucoup de gens, et ça me restera dans la mémoire même plus fort. J'ai eu des sensations. Je me souviens par exemple une fois que j'ai joué dans un petit village qui avait, je pense qu'il y avait 30 personnes, c'était en Aveyron, et qui recevait des enfants orphelins qui venaient passer l'été avec les gens du village, comme les vacances ensemble. Du coup, ils ont décidé de faire un spectacle au moment qu'ils s'est rencontrés, comme les enfants, avec les familles de là-bas. Et j'ai joué pour eux, peut-être on était 30 ou 40 personnes. Mais c'était un moment très bel. Du coup, des fois, on joue pour moins de gens dans un endroit et ça peut être une expérience qui reste dans la souvenir. Ouais.
Par rapport au lieu, vous préférez jouer dans un lieu, on va dire un endroit ouvert ou un endroit fermé? Est-ce que ça change aussi votre perception des choses?
Bon, j'aime jouer partout. Par exemple, avec Céline, on a un duo qui s'appelle La Rencontre Montagne. On joue, par exemple, aussi souvent dans des hôpitaux. Je jouais même dans les chambres des gens dans les hôpitaux. Et au chapiteau, au théâtre. Mais je peux dire un peu en secret que j'aime beaucoup jouer dans la rue. J'aime jouer dehors. Et c'est quelque chose que des fois les gens ils disent « Ah, bon, jouer dans la rue, ça peut être... » Mais moi, j'aime. J'aime avoir comme décor les ciels et les publics aussi, que c'est des publics que peut-être d'habitude, ou des fois, que certaines personnes qui ne vont pas au théâtre, quand je joue au Maroc, avec des enfants qui vibrent dans la rue et qui viennent voir les spectacles et que peut-être ils ne vont pas au théâtre. Et c'est super, j'adore jouer dans la rue. C'est un peu aussi mon rêve. Quand, à 17 ans, je suis allé jouer au festival d'Edimbourg, au Fringe. Avec un ami, on a fait un spectacle. On avait eu comment délire que tout l'argent qu'on gagnait, on le dépensait le même jour. Donc on invitait tout le monde tous les jours à tout. Et après, mon rêve, c'était d'être artiste de rue. À cette époque, je me suis dit, ça que j'ai envie, c'est jouer dans la rue. C'était mon rêve. Après, voilà, j'ai eu la chance de jouer dans un chapiteau, de jouer dans des théâtres. Mais la rue, ça fait partie de mes racines, de mes rêves.
Quel message vous voulez transmettre dans les spectacles que vous faites?
Je pense que pour moi, les spectacles, j'essaye pas non plus d'envoyer des messages. Parce que je pense que c'est bien. J'aime bien la liberté, j'aime bien que... Que cet esprit de liberté fasse partie aussi des regards des publics. Du coup, l'idée, je pense que le spectacle, pour moi, il doit poser des questions et d'ouvrir l'imaginaire, ouvrir des fois le cœur, pour que chacun il puisse retrouver peut-être un message ou une réponse à eux, mais pas que moi je viens les dire, même si ça peut être un bel message, même si ça peut être lutte pour tes rêves. Peut-être que toi, tu vas trouver cette réponse en voyant un spectacle, mais peut-être que quelqu'un va trouver une autre, c'est ça qui est riche. Du coup, je pense qu'un spectacle, surtout, doit poser des questions.
Vous avez un meilleur souvenir et un pire souvenir?
Un pire souvenir, je pense que les pires, je l'oublie. Du coup, j'aurais du mal à dire... quelque chose du pire, parce que même des fois, le pire, ça redevient du mieux, avec un peu de temps. Un de mes meilleurs souvenirs, bon, j'espère, avec un peu d'optimisme, que ce meilleur souvenir est encore pour venir. Mais j'en ai beaucoup de belles moments, de jouer, par exemple, une fois que j'ai joué à Paris, ma mère est venue... voir les spectacles là-bas quand j'ai joué avec les cirques gauches en chapiteau. Et c'était un souvenir que ça resterait dans ma mémoire.
La galerie de 20 ans, que vous pensez-vous?
Bon, c'est super de fêter un anniversaire, hein, toujours. Ça permet de faire un petit fête. C'est génial qu'il existe un lieu comme ça. C'est presque unique. Et avec des très belles personnes qu'il y a dedans, que c'est aussi le plus important. À part l'espace, il y a des gens ici d'une grande beauté humaine. Je pourrais dire nom par nom de chacun, mais Michel, le réalisateur technique, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Hélène Blandin qui fait la médiation culturelle. Et Maïté, Serge. Il y a toute une équipe de personnes qui sont vraiment de belles personnes et qui font que ce lieu soit aussi unique.
Merci beaucoup.
Découvrons à présent le travail de Nathalie Bacon, chargée de mécénat à la Grainerie.
Nous sommes à la Grainerie avec Nathalie. Bonjour Nathalie, peux-tu nous expliquer ton rôle ici et depuis quand travailles-tu ici?
Bonjour, alors je travaille à la Grainerie depuis près de 8 ans et je suis chargée donc du mécénat, des partenariats avec les entreprises et de l'événementiel.
pourquoi est-il nécessaire de rechercher des financements privés pour un lieu comme la Grainerie ?
Alors, la Grainerie est subventionnée par des partenaires publics, hein, enfin, des institutions publiques, mais il n'empêche que pour certains projets, il faut trouver des sources de financement supplémentaires. Donc, dans ce cas-là, on fait appel au mécénat privé, notamment pour des projets d'éducation artistique ou culturelle, également pour la pépinière des arts du cirque. Voilà, donc pour cette raison, pour accroître les ressources de certains projets ou même de la Grainerie de façon plus globale, nous sommes amenés à rechercher des financements auprès des entreprises.
Peux-tu nous parler des événements privés organisés ici ?
Oui, alors nous accueillons tout au long de l'année donc des événements d'entreprise qui sont destinés soit à leurs salariés, soit à des clients. Et donc, ces entreprises choisissent la Grainerie pour à la fois ses espaces, mais aussi l'activité qu'elle développe tout au long de l'année dans le domaine du cirque contemporain. Donc, nous accueillons des entreprises qui organisent par exemple un séminaire, une assemblée générale, mais la mise à disposition est conditionnée au fait qu'il y ait présence du cirque, qui peut se manifester soit par des ateliers de cirque, de pratique, ou alors par la programmation d'un numéro, de plusieurs numéros dans le cadre d'un cabaret ou d'un spectacle.
Avec quels partenaires travailles-tu ?
Nous avons accueilli de nombreuses entreprises, hein, alors soit des entreprises qui se situent de façon assez proche de la Grainerie, donc des entreprises qui sont sur Balma, mais également des entreprises de la métropole. Nous accueillons également assez régulièrement maintenant des événements destinés à des managers, à des RH, chefs d'entreprise de façon plus globale. Et ça a été le cas notamment avec la Fabrique du Changement, qui est un événement qui s'est déroulé pour la première fois sur Toulouse, qui est né à Nantes l'année dernière, et ils reviennent d'ailleurs cette année à la Grainerie. Cet événement était un événement autour de la conduite du changement au sein des entreprises pour remettre l'humain au cœur des organisations. Donc pendant toute une après-midi, il y a eu différents ateliers en fait, qui se sont déroulés. Et la Grainerie a proposé également un atelier dans ce cadre-là. Nous accueillons également au mois de décembre chaque année une compagnie en autodiffusion qui pose son chapiteau à la Grainerie. Et donc nous profitons de cet accueil pour proposer à des comités d'entreprise d'organiser leurs arbres de Noël. Donc nous proposons à la fois à ces CE d'assister au spectacle, mais également des ateliers cirque pour les enfants, un goûter, le Père Noël sur échasse, enfin voilà, etc. Et donc depuis 7 ans maintenant, on accueille ces arbres de Noël. C'est un petit peu le rendez-vous chaque année que l'on retrouve à cette période.
Et comment a évolué la Grainerie depuis que tu exerces ici ?
Depuis 7 ans, on a accueilli un grand nombre d'événements. Hein. Par rapport à l'année dernière, en 2007, on a dû accueillir 28 événements. Il faut savoir que ces événements représentent à peu près 5000 personnes qui viennent découvrir la Grainerie, donc des personnes qui, bon, quelques-unes connaissaient un peu, mais enfin la majorité découvrent à la fois notre lieu, mais également une pratique et un art en venant ici. Donc, au fur et à mesure, on a réussi à la fois fidéliser des entreprises qui viennent une fois, deux fois, enfin plusieurs fois dans l'année, mais également le bouche à oreille fonctionne très très bien. Donc faut savoir que quand une entreprise vient ici, en général, il y a à peu près, le format est à 230-250 personnes, et que potentiellement, il y a un grand nombre d'entreprises qui ensuite, en découvrant la Grainerie, ont une envie de revenir ici pour y organiser leurs propres événements. Donc on a vraiment, en 7 ans, on a une belle évolution en fait, hein, de ces ressources privées. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est aussi une façon de faire connaître la Grainerie, également de faire travailler des artistes, puisque que ce soit pour les ateliers ou pour la programmation artistique, on travaille avec des artistes, mais également on constitue des équipes de techniciens. Donc ça représente aussi une masse salariale assez importante. Donc vraiment, le travail de relation avec les entreprises à la fois permet de faire connaître la Grainerie, mais également d'accroître les ressources et également de faire travailler un certain nombre de professionnels dans le cadre de ces événements.
La Grainerie fête ses 20 ans. Comment imagines-tu la Grainerie dans 20 ans ?
La grainerie, je l'imagine comme un lieu très ouvert ou à la fois un lieu de spectacle, mais avant tout toujours un lieu de création comme il l'est aujourd'hui. Un lieu où des activités peut-être différentes pourraient s'y dérouler. C'est-à-dire, je ne sais pas, on pourrait, c'est des choses qu'on a évoquées à un moment donné, des espèces de coworking où les entreprises pourraient à la fois venir travailler et puis pourquoi pas assister à des étapes de travail pendant leurs heures de travail. Voilà, un lieu de brassage, de rencontre, ce qui l'est déjà, mais sans doute encore peut-être plus renforcé par une activité plus dense.
Merci Nathalie de nous avoir consacré du temps. Retrouvez l'actu de la grainerie sur le site la-grainerie.net.
C'était Radio Caravane, une émission spéciale 20 ans de grainerie. Ça vous a plu? Retrouvez les interviews complètes sur radiocaravane.net et sur les ondes des radios partenaires. Et toute la programmation sur la-grainerie.net.
La grainerie a 20 ans.
20 ans de cirque en Occitanie.
La grainerie is 20 years old. 20 years of circus in Occitanie.
La grainerie tiene 20 años. 20 años de circo en Occitania.
Culture.
Art. Passion.
Famille.
Liberté.
La grainerie is 26 years old. 26 years circus in Occitanie.
A grainerie tem 20 anos, 20 anos de circo na Occitanie.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle.
Proposé par la grainerie et les associations Média Commun et Iva Sound Studio,
un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils couvrent la programmation de la grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.